tonneau vert. Donnez-moi un tonneau vert. Bonjour à vous tous qui écoutez en ce moment Radio Saint-Ferréol. Voici l'émission mensuelle de Donnez-moi de vos nouvelles. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. L'origine de cette célébration remonte au début du XXe siècle, en 1909, aux États-Unis et en Europe, lorsque les femmes commencent à manifester pour obtenir le droit de vote, mais aussi de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les femmes et les hommes. En France, la journée a été officiellement reconnue en 1982. Elle est chaque année associée à un thème, cette année, l'avenir est féministe. C'est dans ce contexte que j'ai choisi de vous présenter Vanda. C'est un roman noir écrit par Marion Brunet. C'est beau et inquiétant. Vanda est une femme secrète, courageuse, passionnée, et qui a la rage contre les humiliations et les injustices qu'elle vit. Elle a la trentaine, elle voue un amour dévorant, exclusif à son fils Noé, 6 ans, surnommé Bulo, qu'elle élève seule. Elle travaille comme femme de ménage dans un hôpital psychiatrique. Elle galère comme tous ceux qu'elle côtoie. Elle vit dans un minuscule cabanon sur la plage, sans confort ni eau chaude. Elle est à la frontière de la marginalité. On est à Marseille. Le père de l'enfant s'appelle Simon. Quand Vanda l'a quitté, il y a 7 ans, il est parti pour Paris où il a réussi comme graphiste. Il ne sait pas qu'il est le père de Noé. Il l'apprend brutalement lorsqu'il revient à Marseille pour la mort de sa mère. Le roman se construit sur la tension qui va naître quand Vanda découvre le retour de Simon. Et là, tous les éléments d'une tragédie sont réunis. Il restera pas. Elle l'a reconnu tout de suite. S'est arrêté de respirer, glacé. Il boit près des enceintes, remue à peine dans un balancement raisonnable de la tête, le sourire ennuyé du mec qui n'a pas traîné dans ce genre d'endroit depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fout là? Vanda ne l'a pas revu depuis presque 7 ans. 7 ans, c'est loin. Une autre vie. Le type ne bouge pas. Il y a longtemps déjà, il était comme ça, incapable de danser, le corps qui s'empêche. Il n'y avait que dans le sexe qu'il devenait mouvant, surprenant de désordre et prêt à l'envol. Tournant le dos à la scène, Vanda traverse le groupe de danseurs, pousse les corps en sueur, les torses qui tressautent et se heurtent. À mesure que le groupe sur scène s'excite de plus en plus et que l'ambiance du bar monte encore d'un cran, elle réalise qu'elle est déjà drôlement bourrée. Le vertige de l'alcool et l'impression d'être envahie sur ses terres. Lui, près des enceintes, il ne fait plus partie de son paysage. Il s'y superpose tel un insecte sur un tableau aimé. Il faut qu'elle rentre. Elle doit fuir l'autre. Rejaillie d'entre les disparus. Bordel, il faut vraiment qu'elle bouge avant qu'il la voie. Elle se coule vers le comptoir, commande une vodka. La dernière, elle annonce au serveur, qui lui sourit sans y croire. Il s'en tape qu'elle mente, il en voit tous les soirs des pires qu'elle. Et elle aussi, il la voit souvent, depuis longtemps. Ce bar, c'est une fausse famille à force. Parce qu'elle plie sous l'urgence, elle tient parole et décline d'un geste la proposition du serveur qui ressort la bouteille. Là, il faut qu'elle se tire. Elle n'a pas le choix, trop à perdre et les mains qui tremblent. Sur le trottoir, des types fument et l'un d'entre eux lui fait des signes de revoir. Il titube en rigolant. « Salut, Vanda. Fais gaffe sur la corniche. » Elle allume une clope sans répondre avant d'ouvrir sa Renault 21 hors d'âge qu'elle n'aura jamais les moyens de remplacer. Elle a laissé un bras au garagiste pour la dernière courroie de distribution. Maintenant, ça fait moins de bruit quand elle roule. Un luxe. La prochaine fois. Elle s'était pourtant juré que ça n'arriverait plus. Mais ça arrive à nouveau, à chaque fois. Elle est venue directement du pavillon psychiatrique à l'école, mais elle a mis des plombes pour se garer parce que le flic qui s'occupe de la circulation ne l'a pas laissé ranger la voiture en double fil. Elle avait envie de lui dire le reste, mais elle a pris sur elle. A retenu le doigt tendu qu'elle rêvait de brandir sous son nez de connard borné. Elle fait des progrès. Lorsqu'elle arrive essoufflée devant la grille, Noé est tout seul, ou presque. Une institutrice lui tient la main. Le regard de l'enseignante ne laisse pas place au doute, ça déborde d'inquiétude et de colère. Et derrière affleure le mépris. « J'ai eu du mal à me garer. » L'institutrice ne répond pas. Son front est barré d'une frange rousse et Vanda voit bien qu'elle se pèle le cul sous sa petite robe bariolée. La veste en laine qu'elle serre, bien fermée contre elle, n'a pas l'air de suffire. Vanda trouve qu'elle ressemble à une publicité pour de la confiture éco-responsable. Noé s'engouffre contre sa mère à bras ouverts, pas rancunier. Il tire doucement sur son bras pour signifier qu'il veut y aller. Il y a comme une urgence à s'éloigner de l'école. Mais la jeune femme retient Vanda d'un regard. « Je dois vous parler. C'est plus possible, ces retards. Et pour son absence de la semaine dernière, je n'ai rien vu dans le cahier. Pardon ? Le cahier de liaison. Vous devez justifier les absences de Noé, vous comprenez ?» Vanda plisse les yeux sous le reproche. Tout en elle se révolte contre l'humiliation, le ton, le gouffre que la jeune femme creuse entre elles. Noé serre la main de sa mère. C'est doux, ils sont alliés. Elle choisit de sourire grâce à la pression tiède des petits doigts. « Oui, j'y penserai la prochaine fois. Il ne suffit pas d'y penser. Il ne faut plus que ça se produise. Et je ne peux pas rester tous les soirs 20 minutes de plus avec Noé. Vous pouvez vous arranger avec une autre maman, non ?» Vanda n'a plus envie de faire d'efforts. Elle pense à Magali, avec son coca et sa clope dans le jardin du pavillon psychiatrique. Elle lui envie soudain le droit à l'insulte sans conséquence. Ce serait bon de lui dire « ta gueule » à l'autre, mais pas très malin. Alors Vanda ne répond pas, se casse sans un mot et file avec Noé au bout du bras. Dans son dos, l'instit ne lâche rien. Elle a eu du mal à commencer, elle ne veut plus s'arrêter. « Je sais que c'est compliqué pour vous et que vous vivez sur la plage avec Noé, mais je vous préviens, la prochaine fois, je vais devoir prévenir les services sociaux. » Vanda ferme les yeux, serre fort la main de son fils et accélère. « Ouais, t'as qu'à faire ça, connasse. » Elle ne l'a pas dit assez fort pour que l'instit l'entende distinctement, mais presque. Quand ils arrivent sur la plage, il y a du monde. Pas des touristes, non, des copains. Une dizaine avec des packs de bière qui les acclament quand ils débarquent. « On t'attendait, Vanda !»« Salut, Loupio !»« Salut, Bulot !»« Salut, Noé !» L'enfant sourit, cavale jusqu'à la porte du cabanon. Il n'aime pas embrasser les gens, sauf sa mère. Il dit « bonjour », des signaux avec la main. Et attend que Vanda vienne ouvrir pour s'engouffrer chez lui. Les apéros improvisés par les copains se passent sur la plage, même en hiver. mais le printemps approche de toute façon. Vanda ne laisse pas entrer la meute dans leur caverne. C'est trop petit, et puis c'est chez eux, une tanière. Mais ça permet de mettre la bière au frais et de brancher les enceintes, d'aller pisser à l'intérieur pour les filles. Les mecs vont dans les rochers ou au bord de l'eau. Parfois, il y en a un qui reste après les autres, et celui-là a le droit d'entrer. Mais c'est compliqué avec le gosse. Jimmy tente de rouler un deux-feuilles sous son blouson. C'est acrobatique avec le vent. Il braille des insultes à chaque rafale et ça fait marrer les autres. Vanda va chercher une couverture qu'elle lui pose sur les épaules. Ça laisse à Jimmy un espace abrité pour rouler tranquillement. Et puis, il fait froid ce soir. Quand elle lance les pixies, un peu fort pour couvrir le bruit du vent et des vagues, ils poussent tous un grognement joyeux en reconnaissant les premiers accords. Ils sont restés bloqués et ils aiment ça. Tout à l'heure, elle mettra les Clash, ou Bowie, ou Rammstein. Des classiques qui les réchauffent, leur font bouger la tête en rythme. Jimmy allume le joint et inspire la première bouffée avec ravissement. En vrai, il ne s'appelle pas Jimmy, bien sûr, et il n'est pas américain. Personne ne se souvient de l'origine du surnom, pas même lui. Le joint tourne, la fumée grasse s'envole et les bouts de cendre brûlantes avec. Chacun se protège les yeux avec les mains, bouteille au bout des doigts. Ça parle des travaux sur Jean Jaurès et des millions dépensés pour gentrifier le quartier de la Plaine. Ils envisagent une action, un truc pour mettre le bordel, faire peur aux vigiles qui gardent le chantier. Isabelle soupire, dit qu'ils ont passé l'âge, parle de son chômage qu'on menace de lui retirer parce qu'elle a refusé un job de manutentionnaire alors qu'elle est plasticienne. Sam s'énerve en parlant de son intermittence et des dates qu'il n'a pas pu cumuler ce mois-ci. C'est chaud pour tout le monde. Sauf pour Fred qui donne des cours d'informatique dans un institut qui vient d'ouvrir. Il a même décroché un vrai contrat. Au fond, Vanda ne les connaît pas vraiment. Ils sortent tout droit d'un passé d'étudiante qui s'est éloignée d'année en année, ou des beuveries diverses qui égrènent leur vie. Ce sont des galériens et elles partagent avec eux un peu de cette marge qui ici devient la norme. À force de déclin. Mais elle a toujours gardé ses distances. Ce petit écran qu'il faudrait dissoudre pour que les copains deviennent des amis. Elle sait pas faire. Noé émerge du cabanon avec une poignée de dinosaures. Sans regarder personne, il les installe face à la mer, pattes plantées dans le sable, appelle sa mère pour qu'elle vienne voir, lui explique les conflits entre espèces et chuchote le nom de certains d'entre eux. Elle adore ça, mais elle n'écoute rien. Tout ce qui l'intéresse, c'est le petit visage concentré de Noé. Son monde. De l'enfance, Vanda garde un tas de souvenirs qu'elle ne raconte à personne. Elle est de ces gens dont on pense qu'ils sont nés adultes, ici et maintenant, même immatures. Les failles sont palpables, la fragilité évidente, mais elle livre si peu. On sait qu'elle est arrivée ici il y a plus d'une dizaine d'années, et certains l'ont connue à l'époque. Avant ça, rien. Elle s'est immergée dans la ville jusqu'à en faire partie, comme vierge d'un avant. Elle est d'ici maintenant. Des falaises blanches dégoudent au bar du cours Julien. Les commerçants, patrons de bar ou maraîchers la connaissent, cette fille aux cheveux volumineux et bouclés qui parle peu et son môme qui grandit vite. Beaucoup savent qu'elle vit dans un cabanon sur la plage et c'est pas courant. Personne ne dit rien, mais il y a des chances pour que ce soit interdit, même avec l'eau potable. Ici, l'interdit est mouvant, s'éclipse au profit du légitime, parfois par coutumasse. Les vieux du quartier la regardaient avec méfiance au début, et puis elle s'est fondue dans le bleu. Le bleu d'ici la rassure, inaltéré et plein. Il éloigne le doute, empêche les destructions. En fait, ce bleu-là repousse la fin du monde. Quand Vanda a quitté la Bretagne après son bac, qu'elle a arraché au rattrapage et avec 2 ans de retard, c'était pour entrer aux Beaux-Arts, où elle n'a pas tenu 1 an. Le temps de rencontrer les plus affranchis de sa promotion, les plus explosifs, festifs. Elle a vite compris qu'elle n'avait rien à faire là, sans savoir exactement pourquoi. À l'époque, elle avait l'impression que cet univers n'était pas le sien. Pour preuve, une peinture trop réaliste qu'elle avait présentée avec fierté au cours du premier semestre et qui avait reçu un accueil de ricanements rentrés, de regards condescendants. Elle s'était sentie perdue, humiliée aussi. Alors, elle a emprunté un vocable à d'autres pour se tirer de là sans trop de casse émotionnelle, des idées sur l'art et l'enseignement qui lui semblaient caduques, risibles. Les petits boulots, les ménages, le service en restauration ou dans les bars, c'était plus rassurant, et au moins elle gagnait un peu d'argent. Le contrat à l'hôpital psy, renouvelé tous les 3 mois depuis 2 ans, c'est une bénédiction. Dans la lumière qui décline, le visage de Noé est orange, ses yeux dorés. Vanda s'assied derrière lui, l'enlace. Maintenant, elle voudrait qu'ils disparaissent, les autres. Même Jimmy, qui lui sourit avec l'air de dire qu'il resterait bien un peu plus longtemps. D'ailleurs, il s'approche, se penche vers elle. « Si tu veux, je vais acheter des pizzas. » « Non, on va rester tous les deux. C'est pas que je vous vire, mais Noé doit se coucher tôt, et moi aussi je suis crevée. » Jimmy a l'air déçu. Il joue avec le sable, en saisit des poignets et le laisse filer entre ses doigts. Recommence. « J'ai oublié de te dire que Simon est dans le coin, je sais. Il voudrait te revoir. Enfin, c'est ce qu'il a dit. On était bien bourrés. Il n'a pas changé, en fait. Et il n'a plus l'air de t'en vouloir. En même temps, il y a prescription. Pourquoi il m'en voudrait ? Non, mais je sais pas. Comme tu l'as quitté, tout ça. » Vanda relève la tête, fixe Jimmy. Elle est contrariée, anxieuse. Ça se voit à ses pupilles étrécies, sa ride du lion plus prononcée. Il y a son cou aussi qui se dresse comme un cobra, aristocratique. Et alors ? Non, mais rien, laisse tomber. Je voulais juste te dire qu'il avait envie de te voir. Sa mère est morte, c'est pour ça qu'il est revenu. Appelle-le, je t'envoie son nouveau numéro. Quand les copains s'en vont, Vanda et Noé restent encore un moment plantés dans le sable comme les pattes des dinosaures. Ils regardent le soleil s'enfoncer dans l'eau. Vanda garde ses bras autour du gamin bien serrés. Elle sent monter l'angoisse, une vague noire qui va fondre sur eux. Elle le sait. La venue de l'autre et son insistance à la revoir sont autant de signes. Ça vient pareil à un grain. La couleur du ciel qui change avant la tempête. Le corps de son fils la rassure. Une réalité palpable, ce qu'elle a de meilleur. Eux deux, tout seuls, rien que son fils et elle, il n'y a que ça qui compte vraiment au final. son visage dans sa nuque, elle renifle son odeur comme une bête, se retient de le mordre. « Je pourrais mourir pour toi !» L'enfant se raidit, voudrait peut-être échapper à l'étreinte.
« Y a quoi en face ?»«
Je t'ai déjà dit, si tu nages tout droit, c'est l'Algérie. Si tu dérives, le Maroc. »«
On ira ?»«
Oui, mon grand, on ira. »
La folie des grandeurs, des filles d'aujourd'hui, c'est comme un mal de cœur dans un avion taxi. C'est comme un poudrier avec une mitrailleuse jetée sur canapé ou zone dangereuse. C'est le fourreau bleu noir d'un appareil photo au fond d'un urinoir dans les quartiers prolo. Un bouillon de 11 heures et des ongles vernis. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. C'est l'oiseau de malheur des élus de Paris. C'est comme une moto chargeant un bal masqué ou comme un torero déguisé en marié. Et son voile géant traînant dans l'eau glacée. C'est un prince charmant tout harec ou pygmé. Un orage de fleurs dans un bain de minuit. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui.
L'odeur des gens. Dans le bus, Vanda a trouvé une place contre la vitre, Noé calé sur ses genoux. La voiture l'a lâché hier, mais de toute façon, au puce, il n'y a jamais de place pour se garer. Elle se demande comment elle va faire maintenant pour aller au taf. Le bus est blindé, les gens debout manquent de tomber les uns sur les autres à chaque arrêt. Elle fixe les yeux bleus minéral d'un homme. Les cils longs et clairs d'un cheval camargué. Il sent un parfum lourd, une eau de Cologne musquée. Elle imagine qu'il va à un rendez-vous. Vanda a besoin des odeurs, même les mauvaises. Les odeurs lui parlent, la saisissent et l'ancrent dans le monde. L'odeur des hommes, celle des femmes. L'odeur de tempête et celle de la crème solaire. L'odeur de la ville, jour de grève des poubelles. Gabian sauvage, rats géants qui pourrissent ventre à l'air. Hommes mal lavés, mendiants à la crasse aigre. Odeur de mère. Et surtout l'odeur de son fils. La sueur dans son cou. Son haleine de nuit quand sa bouche s'ouvre en sommeil. Vanda a admis très tôt qu'elle était seule, comme on est seul au jour de sa mort. Elle en a consommé la douleur jusqu'à en faire une identité, une armure. Les autres comptent un peu, mais ils s'en vont, disparaissent. Regarde sa meilleure amie d'école primaire, celle avec qui elle jouait sous les draps, et la petite bande du lycée dont la principale préoccupation était de fuir le coin au plus vite. Elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils n'ont pas résisté au temps, à l'absence. Et les amours terribles, de celles qui donnent du sens aux pulsations, pour qui on pense pouvoir mourir, ou qui nous ont tués en partant. C'est des conneries, on n'en meurt pas. Quand son fils est né, quand elle l'a reçu contre elle pour la première fois, ça a déchiré quelque chose en dedans. Il était là et il n'avait qu'elle. Il va t'aimer toute sa vie, elle se répétait. Et elle ne savait pas si c'était un bonheur ou une putain de malédiction. Vanda ne comprend pas la fragilité des porcelaines. Les préambules et les précautions. Alors un enfant, pour une femme brutale et solitaire, un enfant avec ses yeux d'oiseau sans plumes, sa peau translucide et sa dépendance absolue, elle n'était pas sûre de savoir s'y prendre.
La première chose qu'elle a faite, c'est de le renifler. Au boulot aussi, les odeurs lui parlent. Les joues fraîchement rasées de Gérard, l'après-shampoing de Fadia, la lessive, le vieux tissu, les produits ménagers, les haleines chargées de neuroleptiques, la merde, la peur, le café, le parfum des filles qui se changent dans les vestiaires, enlèvent leur tenue d'hôpital. Mais au fond de son sac, personne ne sait qu'elle trimballe toujours un t-shirt sale de Noé, un qui porte son odeur, dans lequel elle enfonce son visage quand le monde est trop menaçant. S'il l'a toujours été pour elle, l'arrivée de Simon transforme la menace en sommation. Elle ne sait pas exactement ce qu'il traîne avec lui, mais elle sent le danger, une odeur de terre fendue, de cratères ravinés qui suintent. Quelque chose va bouger. Et dans son équilibre de château de cartes, elle n'est pas sûre de soutenir les rafales. Au puce, elle serre fort la main de Noé. Ne surtout pas le perdre dans cette marée de corps, ce quart monde à ciel ouvert où le moindre t-shirt, même sale et déchiré, se revend et s'expose sur le trottoir. Elle se dit parfois que la révolution commencera ici. Mais peut-être qu'à un certain stade de pauvreté, c'est plié pour la colère. On passe en mode survie. Noé s'arrête devant les stands de jouets cassés. Il repère un dragon en silicone, des billes, une barque Lego avec un pompier dedans. « Viens, Bulot, ça vaut rien ça, c'est tout cassé. S'il te plaît, maman, je veux te montrer un truc mieux. » Elle est excitée, anticipe sa joie, voudrait qu'il se dépêche. Il zigzague jusqu'à l'entrée des hangars géants, là où se vendent fruits et légumes. Noé racle ses baskets, exprès sur le sol, déçu et boudeur. Elle tire Noé plus loin dans les entrailles du marché. Du fond du hangar émergent des cris, chants, petits bruits stridents, une cacophonie de ménagerie à plumes. Le visage de Noé s'ouvre comme une fenêtre, ses yeux s'écarquillent. Des dizaines de cages s'empilent pleines d'oiseaux de toutes les couleurs, des perruches vertes aux poules faisanes, et un peu plus loin, légèrement cachées, des haras écarlates, des linottes ou des mésanges à longue queue, un tas d'espèces interdites à la vente. Vanda guette la réaction de Noé, se nourrit de ses éclats de joie. Quand elle a découvert ce marché parallèle d'oiseaux, elle a tout de suite pensé à Noé. Il rêve d'aller au zoo, mais elle n'a jamais le temps et puis c'est cher. Il n'y en a pas dans le coin. Il faut pousser jusqu'à 1 heure de route. Et puis maintenant que sa voiture est morte, c'est même plus la peine. Le bruit est assourdissant. Les stridulations emplissent tout l'espace de ce marché noir à plumes. Parfois, un vendeur recouvre une cage d'un drap pour les faire taire. L'odeur de fiente est puissante, leur pique le nez. Noé s'émerveille, va de cage en cage, appelle sa mère pour lui montrer un couple d'inséparables jaune soleil, puis une mésange à tête bleue. Il éclate de rire, tente de reproduire le chant d'une perruche, le gloussement d'un perroquet gris, puis il s'immobilise devant une cage, la bouche entrouverte. Vanda découvre un petit oiseau délicat, à la tête rouge et noire, le dos d'un beige mousseux. « Il a du goût, le jeune homme. Je lui fais à 100 €. »«
100 €? Pour un oiseau ?»«
C'est un oiseau rare. Et c'est pas le plus cher, madame. » Vanda est emmerdée. Elle voulait faire plaisir à Noé. Ramener un oiseau à la maison, pourquoi pas? Mais elle n'avait pas réalisé le prix que coûtent ces bestioles.
C'est pas avec son salaire de femme de ménage à l'hosto qu'elle va lui offrir une volière d'oiseaux rares au gosse. Mais Noé a les yeux qui brillent. Il parle à l'oiseau dans un chuchotement, ne lâche plus le grillage, y glisse les doigts. Alors Vanda ouvre son sac. Elle a le cœur qui bat vite. C'est beaucoup d'argent. Mais quand Noé passe ses doigts dans la cage par la toute petite porte et que du bout des doigts il caresse la tête rouge du chardonneret, Vanda n'a plus aucune hésitation.
La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est un film de terreur dans un quartier pourri. Un tremblement de terre au fond de l'océan, un pot-au-feu grand-mère cuisiné en gants blancs. Comme un peu de poudre dans une veine bleue, ou comme un coup de foudre prêt à vider les lieux. C'est la nuit des chasseurs, le démon de midi, la folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est un oiseau chanteur gardé par des spahis. C'est un tapis de fleurs dans le moine de Marie. C'est une affaire d'honneur sur un dessus de lit. C'est un vieux dictateur incendié par la foule. C'est une histoire de cœur dans une bouteille saoule. La folie des grandeurs des filles d'aujourd'hui, c'est une étoile en pleurs filante en plein midi.
Voilà, c'était quelques pages de Vanda, ce très beau roman noir de Marion Brunet, Grand Prix de littérature policière pour l'été circulaire, autre roman dont je vous recommande également la lecture. Marion Brunet a été éducatrice spécialisée et elle connaît bien l'impact que peuvent avoir les difficultés économiques et sociales sur les plus démunis. Avec Vanda, elle aborde le thème de l'amour maternel, avec tout ce que cela peut avoir de beau, mais aussi d'excessif et d'ambigu, et aussi par ricochet celui de la paternité. C'est pourquoi elle alterne les chapitres, et nous cheminons ainsi de Vanda à Simon. J'ai préféré ne lire que quelques pages consacrées à Vanda et le choix a été très difficile, vous vous en doutez. Je vous laisse le grand plaisir de lire ce livre. La musique qui accompagne la lecture est celle des Clash citées dans le texte et celle de Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine qui dit « Je suis solidaire avec les femmes ». Mais je ne suis pas de ces personnes qui passent leur temps à exiger qu'on les appelle écrivaines plutôt qu'écrivains. Il y a des combats beaucoup plus importants. Je remercie Charles Gilles qui assure chaque mois le montage de cette émission. Je vous donne rendez-vous le 12 avril pour une autre découverte. En attendant, ouvrez les yeux et votre cœur et n'oubliez pas. Donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.